Voilà. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Le psaume 72, 72 est très significatif. Je vous expliquerai après. Les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de ta justice. Montagnes et collines, ce sont le nom pour représenter les peuples alentour d'Israël, de Jérusalem. Tous les peuples de la terre. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants des pauvres. Il écrasera l'oppresseur. Vous me direz, c'est encore jamais arrivé. Il y a tellement de malheureux. C'est pas encore arrivé. Eh bien, mes amis, ça arrivera. C'est la prière de Anne, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2. Son chant, là, qu'elle a fait à Dieu, qui est magnifique. Premier livre de Samuel, chapitre 2, lisez-le. La prière de Marie, qu'on appelle le Magnificat, où elle loue Dieu. Lisez-le attentivement. Et aussi le cantique de Zacharie dans Luc. Tout à fait au début de l'évangile de Luc, le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ok ? Vous avez des chants, vous avez des louanges, vous avez des prophéties en même temps, à travers la prière de Marie, le Magnificat, à travers le cantique de Zacharie, papa de Jean-Baptiste, et à travers la prière de Anne, 1000 ans avant, la mère de Samuel, le premier prophète Samuel. Et dans le psaume 72, 1000 ans avant Jésus, 72 c'est 72 pour les Belges, voilà, les montagnes porteront la paix pour le peuple de Dieu, le peuple, c'est pas seulement les Juifs, le peuple de Dieu, les élus qui sont sauvés par grâce, et les collines aussi par l'effet de ta justice, de ta sainteté, et aussi, surtout, la justice de Dieu qui a été accompli à la croix par Jésus. Donc les montagnes et les collines, ce sont tous les royaumes, tous les peuples qui vont louer le Seigneur, qui vont reconnaître la majesté du Messie. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Donc dans le royaume de Christ, il n'y aura plus de désert, n'est-ce pas? Il n'y aura plus. Parce qu'actuellement, on perd 35 000 km² tous les ans de forêt et des dizaines de milliers de km² de bonnes terres de culture, érodées par les pluies, etc., saccagées par les méthodes modernes d'agriculture et autres, par l'urbanisation, etc. C'est dingue, alors que la population augmente et que la surface pour nourrir cette population est quand même limitée. Vous savez qu'en France, la nourriture jusqu'au 24 juin, après, on va la piquer aux autres, en Belgique aussi. Oui, au 24 juillet, nous. Après, imaginez qu'on n'ait plus rien jusqu'au premier, parce qu'on va la piquer aux autres. Alors les autres, qu'est-ce qu'ils font? En ce moment, ils ne savent même pas s'ils vont avoir un repas par jour. Vous ne croyez pas qu'il y a des oppresseurs, les blas? Il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Donc Dieu sera une bénédiction complète pour que tout le monde ait à manger. En ces jours, le juste fleurira. Le juste, c'est celui qui est pardonné de ses péchés, qui a accepté Jésus. Et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Dans le royaume de Christ, bizarre, il n'y a plus de lune. Pourquoi? Parce que depuis les temps anciens, la lune, le médaillon de la lune sur les drapeaux, sur les symboles coranique, etc., existait avant l'islam. Elle vient des Amalécites, elle vient des Moabites, des Ammonites, des ennemis irréductibles de Abraham et d'Israël, et de la révélation. Ah, c'est le symbole de la lune, ça lie une étoile à cinq branches. Moloch, l'étoile de Moloch, pour laquelle on faisait des sacrifices. Lisez Actes, la confession d'Étienne avant de mourir, son témoignage de foi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, vous verrez l'étoile de Moloch. Et chose étrange, sur les églises, les sapins de Noël, on met une étoile à cinq branches, alors qu'il y a 80 ans, c'était une étoile à six branches. On est glissé tout doucement au symbole de Moloch, qu'on retrouve partout, dans les groupes d'art metal, rock, tous les drapeaux communistes, américains, musulmans, etc. C'est assez bizarre que cette étoile de Moloch a pris une emprise de cette manière. Dans beaucoup de musique aussi. De t-shirts. Alors, il n'y aura plus de lune. Vous imaginez ? Il n'y aura plus de lune, au verset 7. Donc, il n'y aura plus de lune. Il n'y aura plus ce symbole et cette action. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Donc l'islam n'existe pas, donc je ne suis pas en train de critiquer l'islam. Simplement les habitants du désert, c'est les Ismaélites, c'est les Arabes, et c'est les descendants d'Ésaü. Okay. Et nous avons bien d'autres peuples qui aiment les déserts et qui vivent de manière assez bizarre dans les déserts. Vous n'avez qu'à regarder la planète et voir un peu l'actualité. Ces enfants lécheront la poussière, donc tous ces enfants seront brisés, échecs, de cet esprit querelleur et bagarreur et plein de zizanie. Les rois de Tarsis, ça c'est la partie est de l'Espagne, d'Aragon, actuellement. Et des îles, donc de toutes les nations, paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba, Séba l'Arabie, Saba le Sud-Yémen, offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Donc il s'agit bien de Christ. Et vous avez cela dans les prophéties de Luc, chapitre 1, chapitre 2, dans Ésaïe, chapitre 60 à 66. Vous pouvez lire tout ça. Ésaïe 60 à 66. Ah, vous avez du travail, si vous voulez vous instruire, lisez la Bible. Ézéchiel 38 et 39. Apocalypse, chapitre 18 à 22. Et vous verrez que tous les rois se prosterneront devant ce grand roi de la terre qui est Jésus-Christ. Toutes les nations le serviront. Il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Alors là, aujourd'hui, ma femme et moi, nous ne supportons pas cette situation d'aujourd'hui. Il y a tellement de malheureux et d'enfants qui naissent pour ne jamais être heureux à cause de l'injustice, de l'iniquité. Ce n'est pas normal. Dieu n'a jamais voulu ça. Des scientifiques ont étudié le problème. Si on ne mangeait pas de viande, on pourrait nourrir en mangeant trois fois par jour 40 milliards d'êtres humains. Et ce n'est pas des chrétiens. Parce que quand on veut vivre en opulence, on déchire énormément. C'est le cas de nos pays. En plus, pour avoir une protéine animale, donc de la viande dans notre assiette, il faut en consommer 7 végétales. Et donc c'est un déséquilibre énorme. Alors, il aura pitié du misérable et de l'indigent, il sauvera la vie des pauvres, il les affranchira de l'oppression et de la violence, leur sang aura du prix à ses yeux. Ils vivront et lui donneront de l'or de Séba, ils prieront pour lui sans cesse, ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes, et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. C'est au sens spirituel tout autant que physique. Ça, c'est dans le règne de Christ. Dans le règne de Christ, il n'y a plus de deuil, de chagrin, de mort, de maladie, d'infirmité. Et je voudrais vous montrer dans Ésaïe, si vous voulez bien, que tout cela correspond. Ésaïe, chapitre 2. Donc nous ne sommes pas en l'an 1000 avant Jésus, au psaume 72, 72, mais là nous sommes en 780, 760 avant Jésus. Il arrivera, Ésaïe chapitre 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, donc au-dessus de tous les peuples, de toutes les principautés, forteresses et dominations de ce monde, sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, donc toutes les nations, et que toutes les nations y appuieront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, y montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion, donc c'est Jérusalem, sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Donc le mot loi, c'est au sens de la révélation, au sens de la loi vivante, donc le Christ. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des hoyos, donc des pioches, et de leur lance, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Marchons à la lumière de l'Éternel, donc c'est Christ. Tout cela s'est prophétisé dans beaucoup de places dans la Bible. Nous avons un avenir certain pour celui qui donne sa foi en Dieu, en Jésus-Christ, et dans sa parole, et qui lit sa parole, il se fortifiera toujours plus. Et regardez bien ce qui est mis à la fin du chapitre 2, verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Chers amis, 8 siècles avant Jésus, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il ?» Donc, le psaume 72, 72, se termine comme ceci, « Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. » Si Dieu fait des prodiges, j'aimerais bien vous en montrer un. Luc, chapitre 8. Chapitre 8. Luc, chapitre 8. Il faut que je retrouve. Ah, c'est, oui, c'est chapitre 8, verset 22. Luc 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, donc ça arrivait souvent, hein, un jour, mais un de ces jours-là. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Chers amis, vous trouvez la même chose dans Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Bon, maintenant, moi, je voudrais aller. Quel est celui qui conduit la barque et qui contrôle les éléments de la nature, même déchaînés? Prenons le psaume 107. Nous retournons déjà 1000 ans avant. Psaume 107. Qu'est-ce que Dieu nous révèle ici? Il y a un texte, une partie de ce psaume qui dit ceci, au verset 23, « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, psaume 107, verset 23, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, donc c'est des professionnels, comme les disciples de Jésus, à l'époque où il y a eu la tempête, là, qu'ils ont crié au secours, c'était des professionnels du bateau. Ce n'étaient pas des amateurs. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Vous voyez le bateau qui plonge, qui remonte, etc. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Habileté professionnelle. Des experts, confondus par l'épreuve. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses, comme Jésus l'a fait. Ici, c'est écrit 1000 ans avant. Donc, ce texte, psaume 107, est une prophétie concernant Jésus. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Psaume 93, 93. Pourquoi est-ce que je prends ces textes? Pour montrer la puissance de Christ lorsqu'il va arriver. Nous allons suivre toute une série de textes. La puissance de Christ pour établir son royaume. Nous sommes loin du petit Jésus dans la crèche, ou des icônes, ou des crucifix avec un cadavre dessus. Jésus est ressuscité. Et dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Je suis au milieu de vous. Le croyons-nous ?» Si nous croyons que Jésus est le petit Jésus de la crèche, on ne va pas loin avec ça. Hein? Ou le Jésus sur la croix, cloué là, ou sur une icône, ben on ne va pas loin avec ça. Regardons le Jésus de la Bible, révélé dans la parole sainte de l'Écriture. Psaume 93, 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Dans tout ce qui est sur la terre, qui est puissant, qui nous impressionne, eh bien c'est rien à côté. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Mais Christ ressuscité agit sur terre. Tout autant que dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison éternelle pour toute la durée des temps. Psaume 58, verset 7. Je me suis trompé, excusez-moi. Je me suis trompé. Alors, pardon. Psaume 65, verset 8. Psaume 65, verset 8. Je vais commencer au début. Psaume 65. Avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macables, donc les péchés commis violemment, volontairement, en offensant Dieu sur la terre, ils sont nombreux, n'est-ce pas? Macables, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu as choisi, que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. De nouveau le thème du prodige. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges, ô Dieu. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu le fertilises, etc. Donc nous voyons ici que c'est un texte qui concerne le royaume de Christ. Et juste avant le royaume de Christ, il y a des désordres climatiques, des désordres écologiques extrêmement puissants. Ils commencent, hein. Ça va barder, je pense, dans les 2 ans qui viennent. Hein. Eh bien, c'est le mugissement des flots. Le mugissement des flots est quelque chose qui est typique dans la Bible. Il appelle ce mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Quand il y a tumulte dans les peuples, dérèglement moral et spirituel, il y a dérèglement dans la nature, automatiquement, et dans les animaux. Il y a toujours un parallèle. C'est Jérémie qui a dit ça, les animaux et la nature périssent à cause de la méchanceté des hommes, de leur orgueil. Alors, nous allons aller dans Luc, au chapitre 21. Nous reviendrons dans les psaumes après. Luc, chapitre 21. Nous avons tout à l'heure vu le texte de la tempête, que Jésus calme, arrête, au chapitre 8, versets 22 à 25. Maintenant, nous allons dans le chapitre 21. Encore une autre tempête, mais pas à la même époque. Une tempête qui nous attend, qui se prépare. Chapitre 21 de Luc, verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance, une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Donc, même s'il y a de grandes épreuves, très rapidement, que les hommes ne pourront pas maîtriser, que les nations ne pourront pas maîtriser. Nous, il nous est demandé de redresser et de lever nos têtes vers Christ, vers Dieu, parce que notre délivrance est proche. Au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, debout devant Jésus qui vient nous chercher. » Et nous mettre à part. Dieu avait mis à part Noé dans l'arche pour le préserver du déluge, et bientôt il mettra à part ceux qui ont la foi en lui, une véritable foi, qui cherchent, qui font sa volonté, qui aiment sa parole, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont confessé leurs péchés vraiment honnêtement. Et bien, toutes ces personnes-là seront mises à part, et elles ne seront pas victimes de ces fléaux, elles seront gardées. Elles vont y assister, et puis après, le Seigneur viendra les prendre, et les fléaux vont continuer pendant les années de tribulation, les sept années de tribulation. Alors, pourquoi est-ce que j'avais pris ce psaume 72? Parce que c'est le Dieu des prodiges. Nous ne croyons pas que Dieu est capable de prodiges. Nous ne croyons pas que Dieu est grand et puissant. Et pourtant, Jésus l'a démontré par sa maîtrise de la barque et de la tempête. Et il a encore annoncé. Et beaucoup de psaumes le prédisent, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, a la puissance pour réaliser la venue, l'instauration de son royaume. Ésaïe 51,15. Je voudrais vous encourager à avoir une foi extrêmement profonde dans la personne même de Jésus-Christ, pas dans une religion. Ce n'est pas une religion qui fait la force de la foi, c'est la vie avec Christ. Et qu'est-ce qui fait qu'on est pris, on est mis à part au moment où les tribulations vont augmenter? C'est Christ, parce qu'il a vu qu'on l'estimait à sa juste mesure. Jésus est sérieux avec qui est sérieux avec lui. Alors, Ésaïe 51, verset 15. Je suis, Ésaïe 51, verset 15, 780 à 760 avant Jésus. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Vous avez vu? Ensuite, regardez le verset après. « Je mets mes paroles dans ta bouche, je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. » Et pour dire à Sion, à Jérusalem, « Tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, Jérusalem. Jérusalem qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère. » Qu'est-ce que nous voyons dans ces paroles? Que Dieu met dans son Messie ses paroles dans sa bouche, l'ombre de sa main dessus pour étendre de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Nous voilà donc dans Apocalypse 21, verset 1. Nous voilà donc dans l'instauration du règne de Christ, qui est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. 85 à 90% de chrétiens aujourd'hui ne croient plus que Christ fera un règne pendant 1000 ans sur la terre. Les églises, pour la plupart, sont amillénaristes, c'est-à-dire ne croient pas que tous ces textes ont une valeur historique et sont fondés. C'est simplement symbolique, allégorique, comme on dit. Imagé. Mais alors on peut évacuer la moitié de la Bible, chers amis. Parce que toute la Bible en parle. Alors, regardons dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17. Et je réfléchissais, parce que je revenais d'une étude biblique que je fais toutes les semaines, à Longwy, et je réfléchissais, mais la puissance de Christ qui arrête les tempêtes, la puissance de Christ qui instaure. Il saisit sa grande puissance, on va lire ça tout à l'heure dans Apocalypse. Il la saisit aussi quand il ressuscite tous les morts. Et la mort est vaincue en Christ. La mort, la maladie, le chagrin, le deuil, la guerre, tout est vaincu parce qu'il est Dieu. Ésaïe 65, verset 17. « Je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront même plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Tout le texte d'Ésaïe 65 est magnifique dans ce sens. Je vais un peu plus loin. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Donc pas d'avortement, pas de meurtre, pas d'assassinat, pas de drogue. Pas d'alimentation déséquilibrée qui font mourir prématurément beaucoup de gens. Pas d'alcool. Beaucoup vont dire, bah, on ne se marre plus, c'est pas la peine, un royaume pareil. Mais oui, pour le païen, oui. S'il ne peut pas avoir sa coude régulièrement fumée et faire tout le reste, jouir médiocrement de sa vie et la raccourcir, oui. Mais pour l'enfant de Dieu, qui a la paix et la joie d'être avec son Dieu et d'admirer une création qui est remise à zéro, parce que pour le moment on est en train de continuer à la saccager, et le code génétique des hommes, des humains se dégrade, remis à zéro comme pour Adam et Ève, un code génétique parfait, sans défaillance, sans dégénérescence, sans dépravation. Imaginez. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Donc, celui qui mourra à 100 ans sera jeune, pensez à tous les ancêtres qui ont suivi Adam et Ève. Dans les premières pages de la Genèse, ils vivaient 700 ans, 900 ans, etc.
Il mourra plus.
Alors, continuons. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Donc on n'extorque pas, on n'exproprie pas quelqu'un, on ne saisit pas ses biens, on ne va pas les détruire. Vous comprenez? Le plus grand respect est accordé à chacun. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas. Donc il faut travailler, évidemment, dans le règne de Christ. Il faut travailler. Modestement, humblement. Rappelez-vous le chapitre 2 d'Ésaïe. Des oyo, des ou. Il n'y a plus besoin de gros tracteurs. On n'aura plus de tablettes, de smartphones, de télévisions pour s'affaler dans les chaises et les fauteuils, pendant que d'autres, avec des gros tracteurs, 1% de la population en nourrit 99 autres, en courant 20 heures par jour avec les tracteurs, en s'endettant. Pauvre classe paysanne. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de mes mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas les enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Donc la prière efficace du juste. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, le serpent aura la poussière pour nourriture, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc on pourra se promener dans la savane sans se faire attaquer par le lion, ni la gazelle. Et il n'y a donc plus de carnassiers. Tous les animaux sont herbivores, comme c'était au début de la Genèse. Forcément, nous ne mangerons plus de viande non plus. Comme au début de la Genèse aussi. On ne s'en portera pas plus mal. Nous voyons que le règne de Christ est quelque chose de radicalement rénovateur. C'est une nouvelle création. Et chers amis, tous ces psaumes montrent l'autorité de Jésus. De Dieu d'Israël, révélé à Israël, parce qu'il n'est pas la propriété d'Israël. Dieu n'est pas la propriété de qui que ce soit. Nous lui appartenons tous, mais pas l'inverse. Alors, vous avez dans tous ces psaumes une élévation de Dieu, une grandeur immense accordée à Dieu. Prenons le premier livre de Samuel, chapitre 2. Quelle est la foi de cette petite femme qu'on appelle Anne? Faut-il des diplômes de Saint-Cyr, d'université, pour pouvoir prier réellement? Avoir une foi magnifique? Pas du tout. Là où l'Esprit Saint souffle, l'intelligence règne et la vérité est grande. Rappelez-vous que Jésus a dit, je rendrai ça ridicule les sages et les savants. Mais ce n'est pas le cas de Anne. On la prenait pour rien du tout, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, et une femme dans beaucoup de civilisations qui n'a pas d'enfant n'est rien du tout. Le mari en prend une autre. Et c'était son cas. Finalement, en ayant beaucoup prié, vous lisez chapitre 1, vous comprendrez, Dieu l'a bénie, lui donne un enfant. Et elle avait dit ceci à Dieu. Je veux le donner à l'Éternel, il sera toute sa vie donné à l'Éternel. À la fin du chapitre 1. Alors, elle va donner le sein à cet enfant pendant 2-3 ans, peut-être 3 ans et demi, et puis quand il est sevré, qu'il est en bonne forme, elle l'habille joliment, elle le présente au prêtre Élie, pas le prophète Élie, mais un prêtre Élie, 1050 ans avant Jésus. Et il va servir Dieu en compagnie de ce prêtre et d'autres prêtres. Évidemment, tous les ans, elle va arriver parce qu'il grandit. Elle lui a fait une autre robe, des autres habits, des autres souliers. Elle a tout préparé et chaque fois, tous les ans, elle revient avec des présents pour Dieu. Voici la prière de Anne. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants, donc les armes, l'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Donc nous voyons un renversement de la situation, de manière générale, universelle. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter, résurrection. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Même dignité à tout le monde. Il leur donne en partage un trône de gloire, car l'Éternel, à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Vous voyez ce cri, cette prophétie, cette prière. Vous la retrouvez dans la prière de Siméon, de Anne, dans Luc, dans le cantique de Zacharie et dans le Magnificat de Marie. C'est la même spiritualité, c'est la même prophétie. C'est l'annonce du règne de Christ. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son oint, son messie. Ok ? Nous voyons donc que la parole de Dieu nous enseigne la venue du royaume. Psaume 89. Psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici, j'ai juré à David, mon serviteur, j'affermerai ta postérité pour toujours, j'établirai ton trône à perpétuité. Nous continuons, plus loin. Je pourrais lire tout, mais le temps est compté. Au verset 12, « C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon. » Figurez-vous, ceci c'est 1000 ans avant Jésus. Sur l'Hermon, Jésus a été transfiguré en présence d'Élie et de Moïse, de Pierre, Jacques et Jean. Matthieu 17, verset 11. « Et le Tabor. » Dans Matthieu 28, verset 16, et dans 1 Corinthiens 15, où Jésus en gloire ressuscité est apparu à plus de 500 frères et aux 11 apôtres. Donc, tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Une prophétie, n'est-ce pas? Ces deux lieux ont été le lieu de réjouissance de l'exaltation de la grandeur de Christ, déjà avant sa résurrection. Ces deux lieux se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est élevée, c'est le Christ. La justice et l'équité sont la base de ton trône, du Christ. La bonté et la fidélité sont devant te face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, du septième ange. On va y revenir après dans l'Apocalypse. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. Le Christ est la gloire de la puissance divine sur terre, le jour qu'il va venir. Nous sommes une génération particulière, mes amis, parce que énormément de prophéties sont déjà réalisées. Il n'y en a plus que 2-3 à accomplir. sur la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Continuons. Verset 30. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme le jour des cieux. Il s'agit toujours du Christ. Vous trouvez la même affirmation dans le psaume 132, au verset 11 à 17. Et vous avez des prophéties comme ça, évidemment, concernant la descendance de David, ce roi, ce prince éternel sur le trône divin, qui concerne le Christ dans le premier livre des Chroniques. Au verset 36, toujours le psaume 89, « J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, et comme la lune, il aura une éternelle durée. » Vous avez ça dans Apocalypse 22, n'est-ce pas? 21-22, concernant le Christ. Lisez et méditez tout ce psaume 89, chers amis, plusieurs fois. Je vous en prie. Je ne fais que alimenter votre curiosité et éveiller votre intérêt pour certains textes de la Bible, mais le Saint-Esprit peut développer en vous cette soif de la parole et de la connaissance de Dieu et vous ouvrir les yeux de l'âme, illuminer votre cœur. Moi, je suis que le petit facteur qui met la lettre dans la boîte au matin. Alors, nous allons maintenant dans Apocalypse. Je vous avais dit que j'arrêtais l'étude de l'Apocalypse pour un certain temps parce que ça semblait fatigant et qu'il fallait que j'étudie, que je réfléchisse, évidemment. C'est trop exigeant. Et je suis occupé à beaucoup de choses dans la journée, parfois même la nuit. Donc, il m'a fallu réfléchir, chercher, etc. Lire la Bible, et puis, tout seul, souvent, je consulte le Seigneur. Et je dis, mais Seigneur, où as-tu parlé de ça dans la Bible? Etc. Et cela me revient. Et je voudrais vous dire que le règne de Christ commence au chapitre 11, verset 15. Là, nous voyons le septième ange qui sonne de la trompette. Cela est très important. 11, verset 15. Et déjà, il y a eu un verset préalable, un peu avant, au chapitre 10, verset 7. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Serviteurs et prophètes, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ce mystère de Dieu, ça veut dire quoi, mystère? Dans la vie catholique, l'enseignement catholique, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Mais c'est pas ça. Mysterion, c'est une réalité divine qui nous est découverte au fur et à mesure par Dieu, au mesure que notre foi grandit. Donc, par l'effet du Saint-Esprit et de l'amour de la parole en nous, de la fréquentation assidue de la parole, l'intelligence s'ouvre et la réalité qu'il y a derrière les mots, qu'il y a dans les versets, nous apparaît. Et nous connaissons le mystère de Dieu. Nous connaissons ce que Dieu veut dire. Et cela, tout le monde qui se dit chrétien ne peut pas le connaître. Parce qu'ils n'ont pas en eux l'amour de la vérité, ni de la parole, ni de Christ. Ils portent le nom de chrétien simplement. On n'est pas chrétien parce qu'on est baptisé ou qu'on fait partie d'une église. On est chrétien dans le cœur quand on a donné sa vie à Jésus entièrement et qu'on aime sa parole et qu'on en vit. Alors, Apocalypse 11, 15, le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards, donc les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, parce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Tu as pris possession de ton règne. Ok ? Réfléchissez bien à cette expression. Le règne était à sa disposition autant qu'il voulait. Il l'a dit à Pilate. Si je voulais, je demandais à mon père, il m'envoyait 12 légions d'anges, et c'est aujourd'hui qu'on fondrait le royaume. Il n'en est pas comme ça. Il fallait mourir sur la croix, donner sa vie, payer la dette des hommes. Il fallait que s'accomplisse le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, le mystère de l'Église durant plusieurs siècles, et de la révélation à travers les chrétiens fidèles à la parole. Bien que ces chrétiens fidèles à la parole et à l'Esprit Saint aient été combattus par les chrétiens charnels ou par des incroyants, le mystère de Christ a continué à se révéler à travers les siècles, à travers ses serviteurs, ceux qui ont cru en lui, qui vivaient de lui. En êtes-vous de ses serviteurs et de ses servantes, chers amis ? Et si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, voulez-vous être serviteur, servante de Jésus-Christ, réellement ? Alors vous hériterez du royaume des cieux, du royaume de Dieu, lorsque Jésus reviendra. Il a pris possession, tu as pris possession, tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Donc le règne, mais il y a aussi l'expression tu as saisi ta grande puissance. Ce qui veut dire que Jésus, le Christ, Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, est aujourd'hui dans le temps de la patience, comme dit Pierre dans sa deuxième épître, afin que, dans sa patience, il y ait encore des personnes sauvées. Le temps de la patience de Christ se terminera un jour. Nous lirons le premier Romains chapitre 1. Un jour, c'est le temps de la colère. Donc quand Dieu prend en main sa grande puissance, en une heure, il change la face du monde. Nous allons le voir après. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Tiens, Dieu est écologiste avant l'heure. Détruire ceux qui détruisent la terre. Il y a 20 siècles de ça. Donc, les nations se sont irritées contre qui ? Contre Dieu, évidemment. Elles n'en veulent plus. Elles n'en veulent pas. Mais ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts. Quelle mort, les amis ? Celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui reste dans le péché, celui qui n'a pas reçu Christ en lui, même qu'il ait des gens, qu'il aille à l'école, qu'il aille travailler, il est mort pour l'éternité. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous retrouvons cela, bien sûr, dans Ézéchiel 38, verset 22 et Ésaïe, chapitre 30, verset 30. Et nous trouvons cela aussi dans Apocalypse, chapitre 16, verset 21. Alors, nous allons aller un peu plus loin dans Apocalypse. Chapitre 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Qui va le combattre ? Les 10 cornes, 10 royaumes. Chers amis, je n'ai pas eu le temps de vous expliquer encore cela. 10 royaumes sur terre, la terre sera divisée en 10 royaumes. Eh bien, la convention a été faite, elle est signée. Elle est sur un site, sur Internet. Et c'est 10 zones des royaumes écologiques, en vue de sauvegarder l'écosystème. Bizarre, n'est-ce pas ? 10 royaumes, ils sont créés. C'est quand même renversant. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'élaborer ça, de vous en donner les coordonnées, mais cela existe. Alors, j'étais stupéfait moi-même, il y a de ça 6 mois. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc c'est un empire de durée très courte, avec la bête. Ils ont le même dessein, donnent leur puissance et leur autorité à la bête. La bête, dont le chiffre est 666, et le chiffre 666, au mois de septembre 1990, le décret d'embargo sur l'Irak, fait par l'ONU, ce chiffre 666. Donc, devinez qui est la bête. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc, la force de Christ contre les puissances hostiles à Dieu, la puissance de Christ est victorieuse. Au chapitre 18, vous avez la chute de cette grande civilisation du commerce. Je ne peux pas tout lire, malheureusement, il est déjà 19h, mais je vous lis quand même quelque chose, un petit peu. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. En deux mots, c'est la civilisation mondiale de commerce, qu'on appelle la mondialisation. Sans scrupule, le commerce a autorité sur tout. Tant pis pour les faibles, tant pis pour ceux qui mourront. Le commerce doit régner. Ceux qui en retirent les bénéfices doivent toujours être plus riches. Nous sommes dans cette grande Babylone. Et elle s'allie à des chefs religieux. Elle s'allie à des chefs spirituels. Qui ne représentent pas Christ, bien sûr, même s'ils en ont l'apparence. Ils s'y réfèrent. Ou contre. Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, donc comme des rapaces qui mangent les autres, les plus faibles, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Le mot impudicité, si on le retrouve en grec, ça ne veut pas dire forcément débauche. C'est toutes les formes de dérèglement. Ça veut dire toute attitude, toute option qui se révèle contre les règles de Dieu est approuvée. Toute option, toute attitude, toute culture, toute éducation, toute revendication qui est contre les valeurs judéo-chrétiennes est approuvée comme bonne. C'est cela que ça veut dire, la fureur de son impudicité. Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, donc au dérèglement volontaire, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Donc ici, nous voyons que Christ reprend les vrais croyants, leur dit de sortir du monde, et il les met à part pour qu'ils ne participent pas au fléau de 7 années de tribulation. Pour ceux qui ne connaissent pas ce texte, le temps se fait court, qui ne connaissent pas ce texte, c'est dans Thessaloniciens. Thessaloniciens. Chapitre 1er aux Thessaloniciens. Vous lisez chapitre 4, verset 13 à 17. Chapitre 4, verset 13 à 18. Simplement, je vais lire l'un ou l'autre verset. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur Jésus. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire ceux qui ont la foi, qui sont morts avant nous, il y a 500 ans, 200 ans, 2000 ans, 4000 ans. Mais ce qu'il y a, ces personnes-là vont ressusciter et on va les suivre. On va les suivre. Pour aller où? Regardez bien. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. N'est-ce pas un signe de puissance formidable? La plus grande des puissances. Anéantir la mort. C'est total comme puissance. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, ce que vous voyez là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, vous pouvez comprendre beaucoup mieux le 18, Apocalypse 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point part à ses fléaux. Imaginez Dieu qui envoie deux anges, qui fait sortir Lot de Sodome et Gomorre et ses filles, et puis après, allez, il faut les pousser parce qu'ils n'ont pas envie de décoller. Hein? Ils se compromettent dans la civilisation d'aujourd'hui, un peu comme beaucoup de chrétiens. Ils les poussent, et tout d'un coup, le feu tombe sur Sodome et Gomorre et trois autres villes. Sortez. À un moment donné, c'est un ordre, c'est pas facultatif. Sommes-nous prêts à recevoir des ordres de la part de Jésus-Christ, le jour qu'il va nous le donner? Sommes-nous en disposition spirituelle favorable à l'obéissance? Ça, c'est la clé, les amis. Car, verset 5, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Tout à fait la même chose. Les anges ont dit ça. Les cris des malheureux à Sodome et Gomorre sont montés jusqu'au ciel auprès de moi. Dieu a dit ça à Abraham. Alors, vous lisez tout le chapitre 18 et vous allez comprendre que la civilisation que nous connaissons tombe en une seule heure. Je prends le verset 10. Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venue ton jugement. Nous voyons cela, ça c'est au verset 10. Nous voyons aussi au verset 16 et au verset 19. Toujours dans le chapitre 18. En une seule heure, une immense civilisation qui est injuste, qui torpille tous les droits des hommes, qui est d'une grande arrogance et qui est contre toutes les règles d'amour, de sainteté, de respect, d'équité que Dieu a voulu pour la terre, tout cela est balayé. Alors, je vais un peu plus loin pour en terminer aujourd'hui. Verset 22, l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de l'harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette. Regardez bien ce qui s'est passé avec le corona. Tout d'un coup, toutes les grandes festivités où il y avait 10, 15, 20 000 personnes pour des grands festivals. Allô? C'est un signe avant-coureur. Allô? Tous les grands concerts, les grands opéras. Allô? C'est un signe avant-coureur, c'est un avertissement de ceci. Fini de s'égarer dans des divertissements pour oublier Dieu et pour rire de Dieu. Je ne suis pas contre la musique et le chant, croyez bien. Quand je suis en voiture, j'écoute de la grande musique ou des autres musiques modernes régulièrement. Mais de là à en faire une idolâtrie, ça ne remplacera jamais Dieu dans mon cœur. Et pour la civilisation, tout cela afin de ne jamais prier, jamais se tourner vers Dieu. Ça, c'est différent. Ça s'appelle un détournement de conscience. Ça s'appelle une séduction à grande échelle. Et regardez bien, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi, parce que tes marchands étaient les plus grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Le commerce a une pratique d'enchantement, de séduction. À travers la télévision, à travers tous les messages subliminaux dans les films, les clichés, les flashs commerciaux, tout est étudié pour travailler le subconscient et l'inconscient des hommes. N'est-ce pas cela, la séduction, l'envoûtement? Que veut Dieu pour dans son royaume? Des gens vivants, saints d'esprit. Saints d'esprit. Psaume 111. Psaume 111. Et j'en termine là pour aujourd'hui. Dieu sait où il va et où il veut nous conduire. Il faut que nous consentions à être conduits par ce grand Dieu. Nous ne pouvons pas être à la fois avec Dieu et avec toutes les séductions de ce monde. Psaume 111. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'Assemblée. Chacune de nos églises, chacun de nos groupes bibliques doit être composé d'hommes droits, de femmes droites. Là, c'est un test. Il faut se poser la question. Sommes-nous de cette race? Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Sommes-nous de ceux qui recherchent toutes les œuvres de Dieu et pas les œuvres de séduction du malin? Son œuvre n'est que splendeur et magnificence et sa justice subsiste toujours. Sommes-nous conscients de son œuvre splendide, magnificente, magnifique? Sommes-nous dans l'adoration et la louange? Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Donc, le règne de Christ, c'est cela. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Fait avec fidélité et droiture, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Chers amis, si vous adoptez ce psaume, comme ce soir en priant, comme une confession de foi, vous pouvez être certain que le Seigneur vous a préparé une place dans son royaume de 1000 ans sur terre. Et déjà aujourd'hui, vous avez les moyens d'assainissement de l'âme et du cœur et de l'esprit. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Assainir notre raison, assainir nos pensées, déblayer les fantasmes, déblayer toutes les images souillées que ce monde nous a mis dans le crâne et rechercher la pureté. Matthieu chapitre 5, et j'en termine aujourd'hui. Matthieu chapitre 5. Ce Dieu puissant nous invite au bonheur. Je vous invite aussi à lire, en plus du psaume 111, Matthieu chapitre 5, versets 1 à 16. Et chaque fois que Jésus a prêché, il a dit « Heureux les pauvres en esprit », donc ceux qui se réfugient dans le Saint-Esprit, et pas dans l'esprit du monde, « car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Si je souffre de voir le monde comme il est clair que c'est bon signe. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est ceux qui ne s'arrêtent pas d'aimer, de faire du bien. Même si on se moque d'eux. Même s'ils n'ont pas de sous, ils cherchent toujours à aimer, à partager. Même ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Donc, c'est la sainteté. Hein. On n'est pas saint, mais on le devient un petit peu plus tous les jours, chaque fois qu'on a soif de sainteté. Quand on le demande à Jésus, quand on lit sa parole, on progresse. Parfois, on recule. Mais si nous avons soif, regardez, nous serons rassasiés. Il achèvera en nous ce qu'il a commencé, car il est bon et fidèle. Vous pouvez lire cela à la fin des deux épîtres aux Thessaloniciens. Il achèvera en nous ce qu'il a commencé, car il est bon et fidèle. Heureux ceux qui ont faim et soif d'injustice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux qui pardonnent, qui ont de l'amour, qui ne rentrent pas dans la rancune, dans la haine, dans le mépris, l'indifférence, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà le cœur pur. La raison saine et le cœur pur, ça va ensemble, mes amis. La raison saine invite notre cœur à se débarrasser de ce qui le souille. C'est d'abord notre esprit, par la crainte de l'Éternel et par sa parole, et puis ensuite, notre esprit commande à notre cœur et il chasse les choses où on a adhéré affectivement, à tort, mais qui sont installées et qui parfois semblent indécollables. Eh bien, Dieu a la capacité de me purifier par le sang de Jésus lorsque je présente ce désir à Dieu dans ma prière. Dans ma faiblesse, Seigneur, purifie-moi. Je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, et la paix, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront les fils de Dieu. Nous ne pouvons donner la paix à d'autres, dans le travail, à des gens qui nous haïssent, qui rigolent de nous, que si nous avons un cœur pur. Parce que alors, on ne rentre plus en pétard, on ne s'emporte plus. On va les désarmer tôt ou tard, par notre calme, notre simplicité. La simplicité de Christ en nous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes mercredi à vendredi.